Il y a pas mal de choses ce matin que j'ai envie de dire. Mais il est déjà 11h20. Qui a un poulet dans son four? Non? Personne? Ouais. Chouette, on va sauver des poulets. Lorsque j'ai... Le principe quand on prêche, quand on sait qu'on est sur le planning pour prêcher un dimanche matin, c'est de pouvoir se mettre sur une onde. Vous savez, quand vous voulez écouter la radio, vous voulez écouter une station comme Nostalgie, par exemple. Vous mettez sur une... Je dis Nostalgie parce que je vous ai confessé un péché la dernière fois, vous vous souvenez. Vous mettez sur une certaine onde pour écouter cette radio. Et quand on prêche, eh bien, on essaye de faire ça. C'est-à-dire que lorsque je prie, moi, pour dire, voilà, Seigneur, je dois prêcher. Et la première chose que je dis, c'est, Seigneur, je n'ai pas envie que ce soit Fred qui prêche. J'ai envie que tu apportes quelque chose à ton peuple par l'intermédiaire de Fred, effectivement, mais voilà, je veux vraiment que tu puisses nous parler. Et après, il faut rester attentif, c'est-à-dire que forcément, Dieu répond à ce style de prière. Et ça, c'est une première chose que vous pouvez mettre en pratique, c'est que lorsque vous avez une circonstance dans votre vie, n'hésitez pas à demander à Dieu, mais après, restez sur cette même onde pour que Dieu puisse répondre à votre prière. Parce qu'il y en a certains qui peuvent très bien se dire, Dieu va me parler, il va ouvrir le ciel, il va y avoir des rayons de soleil qui vont tomber sur moi, je vais entendre une grosse voix dire... comme à la Stallone. Non, c'est pas comme ça. Dieu parle par des circonstances. Et lorsque je savais que j'allais prêcher aujourd'hui, et il y a de ça trois semaines, un mois, j'étais dans la réunion d'intercession, et puis à un moment, j'ai reçu dans mon cœur « persévère » et « persévère ».« Persévère », »,« père », le père, le papa, « sévère ».« Persévère », »,« persévère ». Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi j'ai reçu ce thème-là? Et au fur et à mesure du temps, il y a plusieurs circonstances qui ont fait que ben, j'ai pu voir que Dieu vraiment, c'était un thème que Dieu mettait sur mon cœur. Et puis en début de semaine, il y a Christiane qui a mis sur son mur, sur Facebook, la chanson d'Olivier Chewa, Persévère. Ça a été une autre chose. C'est un petit détail, vous allez me dire, Fred, c'est des petits détails. Oui. Mais quand vous avez dans votre cœur ce terme de persévère qui rebondit, boum, 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 comme dans un flipper, vous savez, la balle, elle va dans tous les sens, et que vous savez que vous devez parler de la persévérance, et sur le principe du persévère, forcément, quand il y a un chant qui arrive comme ça devant vos yeux, vous vous dites, ben ouais. Et donc, on va l'écouter à la fin de ce prêche. On va écouter le chant d'Olivier Chewa, et vous verrez, en dernière dia, j'ai mis les paroles et on va les lire ensemble. Avant ça, ce matin, on a chanté des chants. La persévérance, forcément, il y a une notion de temps dans la persévérance. Puisque la persévérance, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça en deux minutes. Ce n'est pas quelque chose que, voilà, ça y est, c'est bon, j'ai persévéré, je peux arrêter de persévérer. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est avec Dieu, quand on est dans une vie chrétienne, on ne peut pas dire, voilà, c'est bon, j'ai fini, j'ai été chrétien deux minutes, c'est bon. Ou alors, moi, je suis chrétien non pratiquant. Ça, c'est rigolo aussi. Je suis chrétien non pratiquant, c'est-à-dire que ta persévérance en tant que chrétien, elle est nulle. Hein, vous entendez des gens qui disent ça, moi je suis chrétien, ah bon, d'accord. Donc on est sur la même longueur d'onde, et donc on peut parler ensemble de choses bibliques. Oh ben non, moi je vais pas à la messe. Ben, je dis à la messe, au culte, ou attention. Mais moi j'appelle ça des chrétiens non pratiquants. Ça n'a rien à voir. Et si vous vous souvenez du prêche d'Alex la semaine dernière, il a prêché sur quoi? Bien joué, Noémie. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quoi un chrétien? Quelle est la définition du chrétien? Bien évidemment, dans chrétien, il y a la notion de Christ. Et à l'époque de Jésus, enfin après Jésus, quand les chrétiens ont commencé à s'appeler chrétiens dans les actes, c'était une insulte. Toi, tu es un chrétien, c'était une insulte. Et aujourd'hui, on est fiers d'être chrétien. On est fiers d'être insultés. Et on nous a parlé la semaine avant avec Marc Ambarel, ils sont tous là au niveau de l'équipe, d'accord? Ils sont tous là. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans les annonces, mais vous savez ce qui se passe dimanche prochain? Le premier culte à Marc-en-Barœul. Ouais, on va les faire se lever. Levez-vous l'équipe de Marc. Allez-y, levez-vous l'équipe de Marc. On va les applaudir parce qu'il y a là. Regardez. Et encore, ça, c'est le petit comité parce qu'il y a les enfants avec eux. Et rigolez pas, c'est important les enfants. C'est important les enfants. Parce que c'est pas l'église de demain les enfants. D'accord? C'est l'Église d'aujourd'hui. Et moi, je peux vous donner des témoignages de quand on a été dans l'épreuve avec Pascaline, d'entendre mes enfants prophétiser sur nous. J'ai entendu mes enfants prophétiser, tout petit. Et donc, c'est pour ça, c'est l'Église d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que cette équipe-là, c'est l'équipe restreinte. Vous avez trois couples qui sont là. Il y a Thi également qui fait partie de l'équipe, qui va venir avec vous, qui va se joindre. Mais la semaine prochaine, dimanche prochain, il y a le culte d'inauguration. Donc Antoine et Christiane ne seront pas là. Enfin, Antoine en tout cas ne sera pas là. Christiane, je ne sais pas si elle y sera ou pas. Donc il y a tous les pasteurs. Antoine a demandé à Jean-Denis d'aller. Donc tous ceux qui envoient des couples, puisque Prudence et Wilfried sont de la trompette. Donc Jean-Denis va a priori y être. Je ne sais pas si tu as des nouvelles à ce niveau-là. Il y a Georges qui y sera. Mais voilà. Enfin, Georges, il va déléguer, je crois, à Georges. C'est Virge qui va. Donc voilà, c'est un beau défi parce que l'Église se lève. Et donc, quand je vous disais la semaine dernière, on a parlé des chrétiens. Qu'est-ce qu'un chrétien ? La semaine avant, on nous a parlé de l'Église avec les trois couples là qui sont intervenus. On nous a parlé de l'Église et la persévérance, elle est là. Elle est là dans le principe déjà d'être chrétien et qu'on n'est pas chrétien pendant 2 minutes. C'est pas un sport d'être chrétien. C'est pas le fait de dire, moi je pourrais très bien vous dire, ben voilà, je suis champion du monde de culturisme. Premier qui rigole, je le fous dehors. Où je fais partie aussi de l'équipe de mon village de football. Non. Et puis je pratique pas, je les regarde jouer simplement. Non, c'est pas ça. Le principe d'être chrétien, c'est vraiment dans la persévérance. Et donc quand j'avais ce thème-là, qui était là dans mon cœur, je me suis dit mais comment je peux dire que je vais persévérer avec un persévère? Parce que l'un ne va pas, ça va pas l'un avec l'autre. Je peux pas persévérer parce que j'ai peur de me faire punir. Et donc persévère, l'expression persévère ne signifie pas que tu as un père sévère. C'est mon titre. Elle était bien mon intro, non ? Ouais ? Merci à gauche. À droite, ils n'ont même pas réagi. La persévérance, j'ai déjà prêché dessus, la persévérance, c'est quelque chose qui est primordial. J'aime bien avoir des termes comme ça qui sont assez forts. La persévérance, j'avais parlé de la, il y a une fois ou deux, je sais plus, mais j'avais parlé du principe d'être fou pour Dieu. Ce sont des choses qui sont importantes. On se doit de pouvoir être toujours déjà dans l'obéissance pour Dieu, mais de savoir qu'il y a quelque chose que Dieu veut pour nous et avec nous et pour lui surtout. Ouais? Alors on va lire une première parole. Dans la notion de persévérance et dans la notion de père sévère, il y a cette notion de père, le papa. Et en fait, Jésus lui-même, lorsque les apôtres venaient le voir en disant « Mais comment on doit prier » Qu'est-ce qu'a répondu Jésus ? « Voici donc comment vous devez prier, notre Père céleste. » Jésus, à la base, quand il donne des préconisations pour prier, il demande, il dit, voilà, vous allez commencer votre prière par notre Père. Là-dessus, on est tous sur la même longueur d'onde. Tout le monde connaît le Notre Père. Qui ne connaît pas le Notre Père? Vous pouvez ne pas le connaître. Moi, je me souviens quand j'étais enfant et que tous les soirs, je dormais avec mon frère, puisqu'on avait une maison, on était quand même nombreux dans la maison. Et le soir, avant de se coucher, on devait réciter, on se mettait à genoux au pied du lit et on devait réciter le Notre Père, le Je vous salue Marie. Et après, on avait le droit de se coucher. Et en fait, c'était une récitation. Un enfant qui est là, on lui dit, bah, avant de te coucher, tu vas faire le Je vous salue Marie, le Notre Père, et après, tu peux te coucher. C'est une récitation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On le faisait le plus vite possible pour pouvoir aller au lit le plus vite possible. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et je la connais par cœur. Tout le monde la connaît par cœur, cette prière-là. Mais rien que les deux premiers mots. Notre Père. Mon papa. Et j'ai mis deux versions. J'ai mis la version Second 21, j'ai mis la version Summer. Priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. Que tu sois reconnu pour Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. J'ai juste mis le début, parce qu'il y a une puissance dans ces deux versets-là qui est waouh, 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 bien au-delà que ce qu'on peut imaginer. Notre Père qui est dans les cieux, notre Père, mon Papa qui est dans les cieux. J'ai mis du temps à pouvoir prendre conscience de ça. Parce que c'est vrai, vous le savez, j'ai perdu mon papa tôt et quand on n'avait pas l'image paternelle, bah, vous, notre père, oui, c'est une belle parole. Notre père. Et pourtant, c'est là la base. Jésus, lorsqu'il a dit, voilà, voilà comment vous allez prier, vous allez d'abord dire notre père, Abba Père. Abba qui veut dire père, bien évidemment. Et là, il y a cette notion de papa. Et c'est pour ça, quand on dit la persévérance ne signifie pas que tu es un père sévère. Et tout à l'heure, vous verrez que, effectivement, le père sévère, on a cette notion qui est toujours de dire, ouais, mais de toute façon, moi ici, dans l'église, je suis toujours jugé. Non. Tu n'es pas jugé, tu n'es pas puni. Et moi, je me souviens quand même, j'étais petit, ma mère, des fois, me disait, oh, de toute façon, t'as fait une bêtise, le petit Jésus va te punir. Combien de fois je l'ai entendu ça dans mon enfance? Le petit Jésus va te punir. Alors déjà, le petit Jésus, et il va te punir. Et là, je vais anticiper un peu par rapport à ce que je vais dire. Mais si je change un mot et que je dis Jésus va te corriger, la nuance n'est pas la même. Entre Jésus va te punir et Jésus va te corriger, c'est complètement différent. Ça va ? Ça va. Et donc, il y a des efforts à faire. Comme cela, par exemple. Regardez. J'ai un cadeau pour ma paire. Alors, pour ceux qui sont de Toulon, c'est un cadeau pour mon papa. Il est moche, ta cadeau ? Il est moche, ton cadeau. Non, je dis ça parce qu'il est de Toulon. Il peut pas, il comprenait pas. Je voyais bien dans ses yeux qu'il n'était plus avec nous. Il y avait des poissons rouges qui passaient. je te taquine. Hein. Ça va ? Tu t'es mis au premier rang aussi, c'est un peu de ta faute. Eh, hey, le premier rang, c'est fait pour se faire charrier. Et donc voilà, la persévérance, c'est de pouvoir dire, voilà, moi je vais chercher, je vais trouver une solution pour pouvoir être agréable à mon père. La persévérance, c'est de pouvoir dire, je vais travailler pour être agréable à mon père. Comment je peux faire pour être agréable à mon père? Ma persévérance, c'est de toujours avoir mon nom. Vous savez, la fameuse radio dont je parlais tout à l'heure, je veux écouter Nostalgie, je veux écouter Énergie, je veux écouter Radio France, je veux écouter n'importe quoi, je me mets sur une onde bien précise. Et à partir de là, je peux entendre l'onde. Et effectivement, quand on se dit, bah moi je veux persévérer, forcément je vais être là à me dire, mais sur quelle onde je peux me mettre pour entendre ce que Dieu veut de moi? Ce matin, cette prédication que vous entendez, elle est là pour vous encourager. Elle est là pour vous encourager, parce que c'est fini l'époque de dire, tu as un persévère. Elle est finie cette époque. Elle est finie cette époque. On a un Dieu qui est un Dieu de miséricorde. On a un Dieu qui est un Dieu de pardon. Tout ce que l'on a pu voir, tout ce qu'on peut dire, tout ce que l'on entend, ne serait-ce que même Thierry tout à l'heure, ce qu'il disait par rapport à la scène, effectivement, oui, il y en a qui l'apprennent de façon injuste. Et on pourrait très bien dire, ben oui, mais quand on lit dans la Bible, il y a des gens qui sont infirmes parce qu'ils l'ont pris... Oui, parce que forcément, il y a une notion de correction derrière. Il y a une notion de correction. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Il y a une notion de correction. Un père, et enfin... Les papas qui sont là ce matin, de temps en temps, on a besoin de corriger nos enfants. On a besoin de corriger nos enfants. Ouais, Dodeline pas, Nicolas. Dodeliné, deuxième défi du matin, je devais dire Dodeliné. Dodeliné, ça va? Non, vous connaissez? Et j'ai mon fils qui dodeline quand je dis que je dois le corriger. Quand vous avez votre fils qui vient vous voir à 18h45 pour dire « Papa, je peux aller dormir chez un copain ?» Ben non. Tout à l'heure, on a chanté ce sont des chants qui étaient puissants ce matin. On a senti tous ce moment où l'esprit a soufflé là, ici. Et quand on chante un chant comme Jésus, je te suivrai, il y a deux strophes, les deux premières strophes. La première est réjouissante. Et quand on prend conscience de la deuxième strophe, le deuxième couplet, si vous préférez, mais c'est un peu moins réjouissant. Le premier, c'est dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde, Jésus, je te suivrai. Quand on est dans la joie et tout, ouais, c'est beau, c'est bien. Seigneur, je te prie parce que ma vie est belle. Le soleil brille, j'entends les hirondelles qui piaillent parce qu'on est au mois d'avril et les hirondelles sont arrivées. J'en ai vu une cette semaine. Oui. Et puis après, quand on commence à aborder le deuxième couplet, quand la peine, dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. La première strophe est très facile à chanter. La deuxième l'est beaucoup moins. Parce que dans la notion de persévérance, forcément, il y a les épreuves, il y a tout. Il y a la joie, bien évidemment, il y a les moments de joie, il y a les moments où on est dans cette gaieté pour Dieu, on a ce bonheur de pouvoir être appelé chrétien. Vous savez, cette fameuse insulte d'être chrétien. Mais après, quand on a des périodes un petit peu plus sombres, c'est là où on voit la foi des gens. On voit vraiment l'ancrage. Vous savez, l'ancrage, en disant, voilà, mes fondations, elles sont là. Je ne sais plus qui a parlé, je me demande si ce n'est pas Chris qui parlait de l'autre fois, en disant, voilà, quand les fondations sont bonnes, mais que, non, c'est Alex la semaine dernière, disait, voilà, au-dessus, quand tout ce qui est la partie émergée de l'iceberg et non pas immergée, on peut très bien avoir des fondations qui sont bonnes, et puis être pollué complètement au niveau de l'aspect physique par le monde. Et ça n'empêche qu'on peut très bien être un prédicateur sur estrade, on peut très bien avoir des beaux mots ou des belles paroles pour réconforter les gens, et puis au fond de soi, avoir une certaine pourriture. C'est dur ce que je dis ce matin. Mais la persévérance, elle est là aussi, dans le principe de dire, je m'analyse, je regarde, et comme Thierry a fait, dit, voilà, ne vous précipitez pas à venir prendre la Sainte-Seine. Avant, on va prendre un petit peu de temps, et on va s'analyser, et on va demander pardon à Dieu. Et ouais. Parce que, on peut très bien avoir des fondations qui sont bonnes, et puis avoir cette pollution du monde. Ça va? On lit. Je vais aller assez vite. Romains 8, 15 à 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ça n'a pas été une prière, ça, tout à l'heure? Tu te souviens plus de ce que tu as prié? Non? Si? Ça va? Abba Père. Il a hurlé Abba Père. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour obéir au monde, parce que vos fondations sont bonnes. Mais vous avez reçu, donc pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est très facile de pouvoir, quand on a l'esprit de Dieu en soi, c'est très facile quand on rencontre quelqu'un qui va vous dire « moi je suis chrétien », de ressentir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Je vous assure que c'est vrai. Un jour, j'ai déjà donné ce témoignage, je vais le redonner. J'arrive dans un nouveau travail. Et je me présente au bureau pour le premier matin, etc. Et je fais connaissance de mes nouveaux collègues. Et puis, à un moment donné, je vais dans le bureau d'un de mes collègues et puis on commence à faire connaissance. Il est dans l'église de Mons, à côté. Et puis, j'ai ressenti tout de suite qu'il était chrétien. Je l'ai ressenti, je vous assure que c'est vrai. J'ai ressenti quelque chose parce que son esprit a communiqué avec mon esprit et j'ai su que c'était un frère en Christ. Et donc j'ai tendu la perche, j'ai dit « Oh là là, toi mon petit pétiot, on va y aller ». Un pétiot, c'est une expression de Normandie. Un pétiot, c'est un... Bon, bref. Et au fil du temps, dans la discussion, j'ai dit « Voilà, ben, moi je suis chrétien, donc je fais... » Il me dit « Ah bon, moi aussi ». Je dis « Ouais ». Il me dit « T'es où ?» Je dis « Ben, je suis à l'église du Phare ». Elle me dit « Oui, je connais bien, je connais Antoine Nocek, etc. » Et donc voilà, l'esprit, tout de suite, m'avait dit « Lui, tu peux avoir confiance en lui ». Et donc, utilisez ça dans votre persévérance. Soyez persévérant pour que votre esprit puisse communiquer avec l'esprit, que lorsque vous êtes dans des situations qui ne sont pas de Dieu, Dieu va vous le révéler de suite. Je vais refaire. Quand vous êtes dans des situations qui ne sont pas de Dieu, Dieu vous révélera de suite que ça n'est pas de Dieu. Vous le saurez, parce que dans votre persévérance, il y a forcément une notion de travail qui se fait, un développement physique, mais spirituel, d'accord? Vous savez, comme un muscle, quelqu'un qui va commencer à faire de la musculation, il va commencer par un poids d'un kilo, et puis il va commencer à faire des je ne sais pas comment ça s'appelle, tellement je suis balèze dans ce domaine-là, et puis après il va prendre des poids de 2 kilos, puis après des 5 kilos, des 10 kilos, et puis jusqu'à l'homme le plus fort du monde qui a soulevé 2 chevaux. 500 et quelques kilos, je crois. Il joue dans une série, enfin bon bref, je ne sais plus laquelle. Et c'est exactement pareil dans le monde spirituel. Nous devons exercer notre aptitude à entendre la voix de Dieu. Et c'est pour ça que des fois, j'ai pas honte de dire, ou j'ai pas peur de pouvoir laisser un micro ouvert en disant « Qui a reçu une parole ?» Comme je l'ai fait tout à l'heure avec Serge. Quand Serge s'est mis à chanter, j'ai senti, mon esprit a communiqué avec l'esprit de Serge, qui avait quelque chose de l'esprit qui était bon et que Dieu voulait nous parler. Et la première chose que j'ai fait, c'est dire « Qui a eu l'interprétation ?» Parce que mon esprit a communiqué avec l'esprit de Serge. Et c'est pas psychédélique ce que je suis en train de vous dire. C'est pas du tout psychédélique. C'est comme ça. Tout comme je vous explique comment Dieu peut donner un thème, eh bien, la même chose pour vous. Parce que Dieu veut vous encourager à pouvoir entendre sa voix. Parce que Dieu va récompenser votre persévérance et va faire en sorte que de jour en jour, au fil des jours, vous puissiez être de plus en plus balèze spirituellement. Ah, merci Julien. J'ai eu peur. J'ai cru que j'allais devoir la refaire. Quand je fais des longues phrases, j'évite de les refaire une deuxième fois, mais il suffit d'un amen pour vraiment être réconforté. Alors, merci Julien. On continue. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. On l'aime bien ce verset, hein ? Ah ouais, hein, on l'aime bien. Hein. On aime bien dire ça, hein. Mais moi je suis fils de Dieu parce que en plus je suis co-héritier avec Christ, donc ça veut dire que waouh, je vais avoir un héritage sympa, ouais, ça va être sympa. Quand Dieu va commencer à me dire ouais tiens Fred, tu veux quoi ? Je vais commencer à faire une liste en disant moi je veux ça, tiens, ouais tiens, prends. Mais t'es co-héritier, t'as ma fortune et ta fortune. Tout ce que j'ai moi, tu l'as toi. C'est ça un héritier. Rassurez-moi. Je peux vous assurer que pour avoir fait de la gestion de patrimoine pendant 10 ans, bah quand on parlait d'héritage, oui, effectivement, quand on a un papa qui est riche, bah derrière, ça fait du bien, quoi. Bon, effectivement, le papa n'est plus là. Nous, on a l'avantage, c'est que le papa reste là. Et qu'on a déjà l'héritage de son vivant. Et c'est là où la foule devait se lever pour dire « Ouais, on a un héritage maintenant. » On peut y aller. On a tout. Et cachez votre joie. Je suis le seul à me réjouir de ça. Donc comme je disais, on l'aime bien ce verset. Hein. Sauf... Verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu... Nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, j'aime pas les si toutefois dans la Bible, j'aime pas les si toutefois. Nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Allô ? On rigole plus, là. Ça fait mal d'entendre des trucs comme ça. Hein. Désolé. Le boulot de pasteur, c'est ça. C'est de pouvoir dire des vérités. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Moi, j'aime m'entendre ça, que Christ a donné sa vie sur le bois du calvaire. Oui. Et ce matin, je recevais dans mon cœur, oui, mais c'est pas fini. Quand j'ai entendu des paroles dire « Oui, il a donné sa vie pour toi sur le bois du calvaire. Oui, il a donné sa vie pour moi sur le bois du calvaire. » Mais ce n'est pas fini. Il a continué. Il a été mis dans un tombeau pendant 3 jours. Pendant ce temps-là, il est allé batailler au tréfonds de la terre pendant 3 jours. Et ça n'a pas dû être une partie de plaisir, mais il y est allé. Et 3 jours après, il est revenu. D'accord. Et pendant un certain temps, il a travaillé sur terre, il a mis des choses en place pour que l'Église puisse naître. On nous a parlé il y a deux semaines de l'Église. Et puis après, il est parti, il nous a dit quoi en partant ? Il a dit « Je pars auprès du Père, mais je vous envoie le Consolateur. » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le Saint-Esprit qui est là et qui peut témoigner. Mon esprit peut témoigner avec celui de Serge. Mon esprit peut témoigner avec mon collègue de travail. Mon esprit peut communiquer avec mon voisin. Mon esprit peut communiquer avec un autre chrétien. Mon esprit peut communiquer. Et c'est là où je vois et je ressens la présence de Dieu. Et où je vois et je ressens la direction de Dieu. Oui, c'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Je me souviens un jour... La première fois où ceux qui ont connu Germain Ndeke est venu, c'est un apôtre africain qui est venu pour travailler pendant trois mois ici, au phare. Il nous a instauré des choses et grâce à lui, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont beaucoup changé dans le phare, au niveau de la prière, de l'intercession, etc. Mais il a fait un boulot extraordinaire. Quand il est arrivé la première fois, qu'on l'a vu la première fois avec Pascaline, il est venu nous voir et la première chose qu'il nous a dit, c'est « Oh là là !» Mon esprit est en train de communiquer avec votre esprit. Vous êtes pasteur. Hein, Pascaline? Tu confirmes, je ne dis pas d'annerie. Germain Ndeke est arrivé, il ne me connaissait pas. Il ne connaissait pas Pascaline, il est arrivé, il dit, oh là là, vous êtes des pasteurs. Dieu va diriger, Dieu va vous montrer. Vous avez des rêves dans le cœur, Dieu peut les mettre en place. Parce que les rêves, ils ne sont pas là de façon anodine. Il y a des rêves dans le cœur, il y a des rêves qui sont complètement farfelus, hein. Bien évidemment, il y a des rêves. Cette nuit, j'ai rêvé que je me faisais attaquer par une araignée. Elle était intelligente. J'ai pas compris. Au début, elle était petite, je m'amusais, je dansais autour, et puis elle a commencé à lever les yeux et elle a commencé à me suivre partout. J'ai pas aimé ce rêve. Mais il y avait rien de spirituel, c'était juste une araignée intelligente. C'est tout. Mais j'ai été plus intelligent qu'elle. Bref, je vous dirai, voilà. Je ne dirai pas ce qui s'est passé pour la petite araignée. Non, il y a des rêves que Dieu a mis dans ton cœur. Eh bien, il faut les chérir. Parce que Dieu va te parler, que ce soit des rêves que tu fais pendant la nuit ou des rêves que tu as depuis que tu es petit, enfant, parce que Dieu veut que dans ta persévérance, tu puisses mettre des choses en place avec et pour lui. La parole que j'ai donnée tout à l'heure, ce n'était pas parce que je prêchais ça ce matin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je suis en train de vous dire que je n'avais pas prévu de dire. Parce que Dieu veut parler à vos cœurs ce matin. Et si vous avez des limites, comme je l'ai donné cette parole tout à l'heure, si vous avez des limites, si vous vous êtes mis vous-même des limites, faites-les sauter, enlevez les cadenas, enlevez les chaînes, et faites en sorte de pouvoir être libre dans le monde spirituel. Parce qu'il y a un chant qui dit, un vieux chant comme Elisabeth a donné, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur. Tu as connu celui-là, Elisabeth? Non, tu n'as pas connu. Non, tu es trop jeune. Merci, hein. Ouais. Tu as connu Dominique? Oui. Merci, Dominique. On continue, parce que je vois le temps qui passe. Oh, moins le quart. Oh. J'estime que les souffrances, on continue toujours dans Romains. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oh. Vous avez vu cette promesse, là? Vous la sentez? Les douleurs d'hier sont rien par rapport à la gloire dans ton héritage que tu vas vivre demain. C'est rien. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous avez vu que s'il y a un pluriel là, c'est pas du fils de Dieu, c'est des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que juste avant, on nous a dit qu'on était co-héritiers de Christ et donc héritiers de Dieu. On est donc des fils. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Encore un pluriel, des enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Et la deuxième main, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? On essaye avec les pieds? Non, non. J'ai essayé à la maison, je me suis fait mal. Parce qu'une fois que tu lèves le deuxième pied, tu tombes. Je ne savais pas, moi. On m'avait pas dit ça. Allez, on continue. Romains 8, toujours, 18 à 25. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement. Alors, on parle bien de l'épreuve ici, les douleurs de l'enfantement. On a des épreuves. On a des épreuves. Et Dieu nous corrige dans l'épreuve. Ouh, je l'ai dit, ça y est, je l'ai dit. Dieu ne nous punit pas dans l'épreuve. Il nous corrige dans l'épreuve. Est-ce que je peux avoir au moins un amen? Non, j'ai dit un simplement. Vous ne défoulez pas, ça fait bizarre. Mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ah ouais, vivement la rédemption du corps. J'en ai marre de mon corps. J'en peux plus. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. On pourrait parler, dans l'espérance, il y a cette notion de persévérance. L'espérance, c'est quelque chose qui dure. On n'espère pas pendant 5 secondes. Ben moi, j'espère, ce midi, manger une omelette. Non, ça n'a rien à voir. On n'est pas là. C'est une notion de temps, la persévérance en Dieu. Et l'espérance en Dieu, eh ben c'est du continu. C'est toujours, toujours, toujours. Comme Paul disait, vous avez une course, vous devez la courir jusqu'au bout. Je donne juste un témoignage de Nicolas. Tu vas me pardonner, Nicolas, aussi, tu me pardonnes déjà. Tu aimes ton père, je le sais. Oui, tu aimes ton père. Il y a 3 semaines de ça, il va en sport. Et puis, il devait courir. Déjà, il est mieux que son père pour ça. Le père, il n'a jamais su courir. Mais dans sa tête, il s'était mis que c'était une course de 100 mètres. Sauf qu'arrivé à l'arrivée, c'était combien? 200 mètres? 250 mètres. Donc il a donné tout ce qu'il avait pendant les 100 mètres pour arriver le premier. Manque de peau. À l'arrivée, il lui reste encore 150 mètres. Ce qui fait que, ben, il est arrivé aux 250 mètres. Et qu'en plus, il a raté son bus. Et qu'il m'appelle et que j'étais à Calais, hein, me disant, papa, est-ce que tu peux venir me chercher au lycée? Il s'est fait une tendinite. Au genou. Pourquoi? Parce qu'il a donné un effort trop consistant. Et c'est une belle image par rapport aux chrétiens. Il y en a certains, vous allez les voir, ils vont donner. Et puis ils vont s'essouffler. Et puis un jour, vous ne les verrez plus à l'église. Et vous allez les appeler en disant, ben, hé, je te vois plus, qu'est-ce que tu fais? Oh non, j'en peux plus de l'église, j'ai trop donné. Ah ben oui. Ben oui, c'est pas comme ça que ça marche. L'église, c'est constant, c'est une persévérance. C'est pour aller dans le temps. Pour continuer, continuer, continuer. Pour éviter justement les tendinites ou les crises des boyaux de la tête. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Là, on parle de l'amour, hein, Corinthiens 13, vous connaissez tous le chapitre de l'amour. Le fameux chapitre de l'amour. Et là, on parle de l'amour. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour persévère. L'amour pour l'Église, elle est là. Elle est dans ta persévérance. Elle est dans ta persévérance, réellement. Et l'Église, ça doit être une passion. Ça doit être une passion, l'Église. Sauf qu'il faut aussi remettre une bonne définition à l'Église. Et moi, j'aime remettre la définition de l'Église. L'église, c'est pas 4 murs. Vous savez, vous avez des gens qui viennent vous voir en disant « Oui, mais moi, je suis pour l'église de maison. » Ouais? Ça veut dire quoi? Ben si, j'aime bien, parce que dans les maisons, Dieu ne nous appelle plus à avoir des églises, des grosses églises avec plein de ministères, des choses, un groupe de louanges. Dieu veut qu'on soit dans des églises de maison. On parle bien de la même église? Non. Pour moi, l'église, c'est pas 4 murs. Oui, effectivement, tu peux avoir une église de maison, je n'ai rien contre. Mais partout dans la Bible, on voit que Dieu a structuré, tout le temps, il a structuré son église, tout le temps. Que chacun soit à sa place. Il a donné des noms, des dons, il a donné le Saint-Esprit d'abord pour avoir des dons. Il a donné des ministères, il a donné des tâches, il a donné le diaconat, il a donné plein de choses. Il a structuré l'église pour que, effectivement, nous puissions travailler comme un corps. Comme un corps. Si demain on enlève les murs, on a un gros hélicoptère qui peut nous enlever le bâtiment, qu'on reste que avec la moquette, ce sera toujours l'église du phare. Parce que c'est quoi? C'est le cœur qui sera au centre qui fera que l'église sera toujours là. Oui. Alors punition ou correction? Est-ce que dans notre persévérance, on peut dire à quelqu'un, oh, oui, toi, Jésus t'a puni? Non. Il m'a corrigé, oui, mais il ne m'a pas puni. Et c'est là où, des fois, il y a une mécompréhension aussi dans nos milieux, dans les milieux chrétiens, évangéliques, protestants, ce que vous voulez. Parce qu'on dit, mais on a un Dieu de pardon, il pardonne tout, etc. Oui, mais lisez la Bible. Dieu, effectivement, il y a des moments où il va corriger. Il corrige. Donc, il y a une notion d'obéissance, de persévérance. Il y a cette notion de pouvoir être agréable à Dieu pour ne pas chagriner le Saint-Esprit, parce qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Je finis rapidement avec ça, Proverbe 3, 5 à 11. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Reconnais-le, reconnais-le dans toutes tes voies. Ça veut dire quoi, reconnais-le? Ah bah oui, tiens, j'ai vécu un truc, là j'ai vu que c'était Dieu qui avait agi. Non, il y a aussi la notion de demain. Là, je vais faire ça, je veux reconnaître Dieu dans ce que je vais faire parce que c'est lui qui va ouvrir les portes ou c'est lui qui va fermer les portes. C'est ça, reconnaître Dieu. C'est facile de reconnaître Dieu dans quelque chose qu'on a vécu hier. C'est un peu moins facile de reconnaître Dieu dans ce qu'on va faire demain. C'est balèze ce que je viens de dire. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel. Ouh là là. Une fois, on prêchera sur la crainte de l'Éternel. Je dis on parce que je ne vais pas dire je vais prêcher. La crainte de l'Éternel. On a parlé de Jonas au groupe Croissance lundi. Jonas n'avait pas cette crainte de l'Éternel, ou il l'avait plus, ou il l'avait de façon détournée, bien détournée quand même. Et détourne-toi, ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Et ouais, hein. Est-ce que les proverbes c'était pour hier? Est-ce que le fait que ce soit écrit dans la Bible c'est quelque chose qu'on peut encore utiliser aujourd'hui ou pas? Est-ce que la Bible est toujours réelle aujourd'hui? J'ai vu un truc, juste une expérience, un témoignage. Vous savez, il y a une polémique en ce moment parce que dernièrement, il y a le pape, j'ai oublié son nom, François, merci Rita. Quand les fidèles sont arrivés, vous savez, il lui baise l'anneau papal. Un truc avec plein de bactéries, machin. Il a retiré sa main. À chaque fois qu'il y en avait un qui approchait, il prenait la main et il retirait sa main. Et on ne sait pas pourquoi il faisait ça. Personne ne sait pourquoi le pape a enlevé sa main à chaque fois que quelqu'un voulait baiser l'anneau papal. Et donc, forcément, bah, sur Facebook, j'ai vu un peu tous les commentaires. Et ouais. Bref. Et il y en a un moment, il dit, mais de toute façon, Dieu n'existe pas. J'avais envie de répondre à cette personne-là. Je ne l'ai pas fait parce que je ne veux pas rentrer dans des polémiques, etc. Dieu n'existe pas. Et après, un petit peu plus bas, il a dit, mais ta connerie, elle existe. Bon. J'avais envie de lui répondre, mais ce n'est pas parce que tu ne l'as pas vu qu'il n'existe pas. Parce que moi, je crois en Jeanne d'Arc. Je ne l'ai jamais vue, hein. Mais je sais qu'elle existait, Jeanne d'Arc. C'est un exemple, hein. Je sais que c'est farfelu ce que je suis en train de vous dire. Tout aussi farfelu que le principe de dire que Dieu n'existe pas aujourd'hui, hein. Et voilà. Donc là, ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela t'apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Donc les proverbes sont toujours d'actualité, ils sont pour aujourd'hui. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Oui mais Fred, aujourd'hui on ne peut plus parler d'argent dans l'église parce que c'était dans Malachie c'était sous la loi, etc. Ben oui mais les proverbes, on les utilise aujourd'hui. Donc on parle bien là de dîmes. Hein. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Les premiers de tous tes produits. C'est ce qu'on appelle la première pression. J'arrête là. Alors tes greniers seront... Oui, les promesses, c'est comme ça dans la Bible. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ah, c'est écrit dans la Bible. Ne méprise pas la correction de l'Éternel. Et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Car l'Éternel reprend celui qui l'aime comme un père, l'enfant qui a sa faveur. Punition, correction. On parle bien de correction. Et je termine. Vous savez la chanson de Olivier Chaua qui s'appelle Persévère. Et là, je vais te parler à toi personnellement. Parce que ce chant, il est inspiré de Dieu. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le garde-le, comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. C'est pas la Bible selon, enfin, ou l'Évangile selon Olivier Chauva, hein. D'accord? Ce sont pas des paroles bibliques, mais ça confirme aussi ce que la Bible dit. D'accord? Je recommence. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Et donc le refrain persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Sa parole s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain, toujours fidèle et son chemin certain, même si, 3 points de suspension. Tu mets du son, s'il te plaît. On va remettre. Tu me dis quand tu es prête, Noémie. Ça marche ou pas? Tu l'as branché, mets-toi sur la prise casque de mon ordi. Et puis voilà, ça va aller. C'est la dernière piste, complètement à droite. Rien que ces paroles, elles sont belles. Et on a, vous savez, quand je dis qu'il faut être conscient de ce qu'on chante dans les chants, quand on est dans la louange et qu'on chante des chants, ne chantons pas des chants pour chanter des chants. On n'est pas là pour chanter des chansons. On est là pour chanter des cantiques, des paroles vraies, des paroles inspirées avec, enfin, de la part de Dieu et pour Dieu. Et moi, je crois réellement que ce chant est inspiré. Parce que les paroles sont très vraies. Sont très vraies. Des fois, il y a des personnes qui ont des rêves dans le cœur en disant, mais jamais. Alors, bien évidemment, je parle de rêves qui peuvent servir le royaume de Dieu. D'accord? Si demain, tu viens me dire, ben, moi, je voudrais construire un building de 200 étages, rien qu'avec mes deux petites mains. Non. Non. Le rêve que tu as dans ton cœur, tu sens. Parce que ton esprit va témoigner avec l'esprit de Dieu que ce rêve, il est de Dieu. Ce rêve, il est de Dieu. Vous savez la folie dans la Bible quand on entend un Noé qui construit un bateau en plein désert. D'ailleurs, ils ont reconstruit l'arche de Noé aux États-Unis, dimension exacte, etc. Magnifique. Mais il faut être complètement taré pour aller construire un bateau en plein désert. Non ? Et pourtant, ce rêve, c'est Dieu qui l'a mis dans son cœur. Et Noé a obéi. Et regardez ce que c'est devenu aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous parlais de Moïse. Moïse, il avait le privilège, c'est qu'il entendait Dieu directement. Bon, il y a des pistonnés hein, chez nous, c'est comme ça. Les pistonnés, ils nous énervent, mais ils sont comme ça. On est obligé de faire avec. Il entendait la voix de Dieu. Mais s'il avait vraiment tenu tête à Dieu, en disant, mais non, moi, j'y vais pas. Non, j'y vais pas. Attends, je suis qui, moi, pour aller voir le roi d'Égypte? Je suis qui, moi? Et bien, il a obéi, même s'il a dit à chaque fois à Dieu, mais oui, mais, puis avec une excuse. Le rêve que Dieu a mis dans son cœur, c'était un rêve qui a été sommaire et récent. Mais Dieu lui a dit, voilà, moi je mets un truc dans ton cœur, maintenant tu y vas. Tu y vas. Vas-y. Noémie, c'est bon ? Hop. Vas-y, appuie Ben, s'il te plaît. Ah, ça y est, c'est parti peut-être. Oui, c'est parti. Prenez conscience des paroles. Il y en a pour 4 minutes là. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Ce rêve ne vient pas de toi, même si tu
cœur est réelle cette promesse. Quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, 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 persévère, 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 encore une fois persévère. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui. Elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira.
J'arrête là. Je vais demander à l'équipe de louange de venir.